Arc-en-ciel, pour tout comprendre avec Jean-Noël Degrasse.
Dis-moi Jean-Noël, c'est quoi un puits de carbone dans le contexte des changements climatiques?
Aucune idée.
Puits de carbone? Aucune idée. Je savais même pas qu'il y avait des puits.
Ah, j'ai appris ça à l'école. C'est soit les forêts, soit les océans qui absorbent naturellement le CO2.
La neutralité carbone, ou bilan carbone zéro, consiste pour un pays, une entreprise ou une activité à faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre incontournables soient compensées au moins à la même hauteur par l'absorption ou la séquestration de ces gaz à effet de serre afin de contribuer à infléchir puis inverser la courbe d'augmentation de la température terrestre. C'est l'engagement des pays à l'horizon 2050 dans les accords de Paris 2015. Alors pour arriver à la neutralité carbone, il faut connaître et évaluer son bilan carbone, puis s'attaquer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en privilégiant les énergies vertes décarbonées, en s'engageant sur la sobriété des consommations, en repensant l'économie, les transports, l'agriculture, les modes de vie, etc. etc. Mais il faut aussi augmenter les capacités naturelles ou anthropiques à extraire les gaz à effet de serre de l'atmosphère en les stockant dans les océans, la végétation, les sols et les sous-sols ou en les détruisant par des procédés chimiques. C'est tout cela que l'on appelle puits de carbone, ce que cette demoiselle a bien appris à l'école, où le mot puits désigne un moyen de récupérer et stocker à long terme. Les puits de carbone étaient suffisants avant, à l'état naturel, pour équilibrer le bilan planétaire. Mais avec l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, ce n'est malheureusement plus le cas. À titre d'exemple, en France, les puits de carbone représentent environ 10% du CO2 émis. Le dioxyde de carbone est souvent stocké dans l'eau des océans, les végétaux ou les sous-sols. Les forêts et les océans absorbent environ la moitié des émissions de CO2. Les océans constituent un puits de carbone très important et durable pendant plusieurs siècles. Le CO2 est transmis à l'océan en étant dissous, surtout quand les eaux sont froides. Il est assimilé par les organismes tels que le plancton, les coraux et les poissons pour être ensuite transformé en sédiments. On estime que les océans concentrent environ 50 fois plus de carbone que l'atmosphère, mais ces chiffres sont actuellement sujets à controverse et le GIEC reste très prudent sur les capacités de l'océan à absorber davantage de carbone. En effet, les changements climatiques, en accélérant l'augmentation de la température des océans, l'acidification, l'altération de la biodiversité marine, peuvent entraîner une diminution de la capacité des océans à absorber et stocker du CO2, voire même entraîner des rétro-émissions de CO2, notamment dans les zones mortes où l'acidité et les températures ont tué le plancton et les coraux. Environ la moitié des coraux du monde sont en difficulté, voire morts. Ces derniers résistent très mal à des températures au-delà de 31 degrés et à des eaux acides. La biodiversité marine joue aussi un rôle important dans la séquestration du CO2. Les mangroves, les herbiers côtiers, les marais sont des écosystèmes très efficaces comme puits de carbone à court et long terme. Ils sont capables d'emmagasiner au moins 10 fois plus de CO2 que les forêts. Dans les territoires d'outre-mer, on estime qu'ils représentent environ 100 000 hectares qui capturent entre 2 et 3 millions de tonnes de CO2 équivalent. Mais attention, mangroves et herbiers doivent être protégés car ils perdent régulièrement du terrain. En ce qui concerne les forêts, l'incertitude est grande dans leur quantification de puits et de sources de CO2 tellement les mécanismes sont complexes et différents. Certaines forêts stockent le carbone surtout dans le sol. Les arbres à croissance rapide comme le bouleau, l'acacia, le bois canon, le bambou absorbent peu de carbone et pas durablement. Par contre, les forêts tropicales de bois dur sont plus efficaces et représentent plus de la moitié du stockage des forêts. Mais les arbres tropicaux, dont le carbone peut représenter 50% de leur masse, grandissent beaucoup moins vite. Mais attention, cette capacité de stockage des forêts semble en déclin. En effet, des incendies d'ampleur font perdre en quelques heures ou quelques jours une grande quantité de carbone stocké depuis des décennies. Des études sur les grandes forêts d'Amazonie et d'Afrique montrent que le pic de stockage était en fin du siècle dernier et que depuis, la capacité de stockage a diminué d'environ 10 à 30%, essentiellement à cause de mauvaises politiques environnementales. En ville, ne pas sous-estimer le rôle des grands arbres urbains et des jardins privés. L'homme essaie aussi de capturer, puis séquestrer du carbone artificiellement, en faisant par exemple passer les gaz rejetés par les centrales dans un liquide dans lequel le CO2 va se dissoudre, puis être récupéré pour être stocké. Les centrales utilisent aussi des techniques de gazéification du charbon. Tout cela augmente fortement le coût de production d'électricité. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur l'utilité des puits de carbone. Au revoir et à bientôt.